mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Et ce soir, je suis avec Ludo.
Bonsoir.
Bonsoir Ludo. Et nous avons une émission spéciale ce soir puisque nous allons parler bien sûr de ce qui peut fâcher. Parce que c'est également les luttes de tous aujourd'hui. SNCF, évidemment les intermittents du spectacle. Et puis le Pôle emploi. Hein. Donc nous allons parler principalement des intermittents du spectacle et de Pôle emploi qui sont Pôle emploi prépare une grève. Et les intermittents du spectacle lutte contre la nouvelle convention unédite chômage des intermittents, hein, donc, l'annexe 8 et 10, hein, voilà. Et pour ça, nous attendons donc un appel d'un spécialiste de la question. Voilà. Alors juste pour la petite histoire, rappelons quand même que la convention, qu'en 1936, avec le soutien des producteurs de cinéma, le Front Populaire élabore le régime des salariés intermittents en privilégiant bien sûr les emplois fixes à rémunération constante. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque maintenant, c'est des multiples emplois avec des rémunérations qui sont variables selon, évidemment, les emplois et les rémunérations acédées qui vont, bien sûr, qui correspondent aux journées travaillées dans le domaine. Oublions également qu'en 1961, donc, est créée l'annexe 8 et 10 pour les techniciens du spectacle, également tous les artistes y afférents. Ensuite, en 1992, un premier déséquilibre économique est relevé. Et c'est en 2003 seulement qu'un protocole qui rend incompréhensibles les conditions d'accès met le feu aux poudres et s'ensuit de grandes grèves en 2003, si vous vous souvenez bien. En 2006, ce protocole est à noter. Donc effectivement, tout le monde signe le protocole en question qui avait été discuté en 2003 avec les grèves, etc. Et finalement, il est signé en l'état. En hiver 2013-2014, la renégociation des règles d'indemnisation des intermittents avec des recommandations visant à réduire le déficit de Pôle emploi intermittent voit le jour dans un rapport parlementaire en avril 2013. Il faut rappeler également qu'en mars 2014, donc il y a quelques mois, le cumul multiple emploi et indemnisation chômage peut excéder 175% du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 5 475 € bruts pour les intermittents les mieux payés. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Voilà. Donc oui, Ludo.
Oui, je voulais juste te faire remarquer qu'en fait avant le trou donc des intermittents, enfin le trou de l'UNEDIC des intermittents, donc de l'indemnisation des intermittents n'apparaissait pas tout simplement parce que le régime de l'UNEDIC au départ un régime de d'indemnité solidaire en fait en quelque sorte, hein, c'est-à-dire que ceux qui travaillent cotisent pour ceux qui ne travaillent pas en quelque sorte, et c'est un régime de solidarité, donc c'était le principe de base, et à ce titre il y avait pas de comment dire, j'ai envie de dire d'artifice comptable qui permettait de distinguer l'indemnisation le trou d'indemnisation lié aux intermittents qui par définition sont plus souvent au chômage que les autres en fait, du reste hein, des gens qui bénéficient du régime de l'indemnité du chômage. Et donc c'est très récent pour des raisons d'économie que bah qu'on distingue sévèrement les deux, voire artificiellement en fait, on a envie de dire trois régimes, c'est-à-dire que la Cour des comptes avait présenté dans sa note de référé hein, qui préparait la négociation, avait distinguer un peu arbitrairement le régime d'indemnisation des générales, donc c'est-à-dire ceux qui, par exemple, ont terminé un CDD, ceux qui sont victimes de licenciement économique, avec le régime des intérimaires, qui était un tout petit peu plus avantageux, mais on peut le comprendre largement, puisque les intérimaires, c'est une force de travail ajustable, c'est-à-dire qu'un oui. temps de crise fait un peu les frais justement de la crise, et qui est toujours ponctuel. Et les intermittents du spectacle, effectivement, le régime des intermittents du spectacle. Et donc, tant qu'à faire, donc on avait une espèce de ratio, droit consommé, un truc très bien fait. Donc, effectivement, le régime des intermittents coûtait entre guillemets à l'UNEDIC, un milliard et quelques centaines, je crois, millions d'euros. Et donc, effectivement, ça apparaissait beaucoup. Le problème, donc évidemment, dit comme ça et balancé comme ça un peu au journal de 20 heures, c'est vraiment effrayant, entre guillemets. Sauf que l'UNEDIC reconnaît elle-même que si elle avait aligné les intermittents du spectacle sur le régime général, c'est-à-dire qu'un intermittent du spectacle deviendrait un chômeur comme les autres. On est tous des chômeurs. Les chômeurs sont des gens qui travaillent de temps à autre, quand même.
Il y perdrait pour le coup.
Pardon ?
Il y perdrait pour le coup.
Alors, ben non. Alors, bien sûr, l'intermittent du spectacle, il perdrait beaucoup en termes, puisqu'il, en fait, il y perdrait essentiellement. Pourquoi ? Parce que il ne pourrait plus cumuler pleinement, si vous voulez, ses indemnités chômage avec son activité. Il faut bien comprendre, enfin pour les auditeurs, qu'un intermittent du spectacle, il travaille pas en permanence en fait, hein. Et je veux dire, son volume de travail n'est pas également réparti sur toute l'année. Ce qui signifie que quand on dit comme ça qu'il gagne, donc il y a des chiffres, hein, qui circulent, donc grosso modo en moyenne, un intermittent, 50% de ses revenus sont liés au travail, 50% sont revenus de ses revenus sont liés à l'indemnisation. Mais la répartition peut être tout à fait aléatoire, c'est-à-dire que Gilles, par exemple, est devenu intermittent du spectacle demain, tu vois.
C'est un grand comédien,
voilà.
Hein, tout le monde.
Un grand comédien, voilà. et du coup, eh bien, Gilles, pas de chance, ne travaille que 2 mois
sur l'année. Ouais.
Alors non, parce que t'as pas le droit là.
Ah oui, c'est vrai,
tu connais pas tes droits, toi.
C'est
4 mois sur 10 de travail. Ouais. Mais enfin, si tu travailles, on va dire, t'es 4 mois, tu travailles 2 mois. Donc janvier, février, t'as plus rien et tu travailles 2 mois en novembre, décembre. Et ben effectivement, tes revenus sont un tout petit peu dispatchés dans l'année et c'est un cas extrême, mais voilà. Et donc le reste du temps, il va falloir vivre. Et c'est ça que vivent les intermittents par l'intermittence. Et donc effectivement, ce régime-là était avantageux de ce point de vue-là et donc permettait aux intermittents de vivre à côté, hein, voilà. Et le régime était aussi un petit peu favorable pour les intérimaires, puisqu'il permettait quand même un cumul plus facile des acédiques et du revenu, moins avantageux que les intermittents, mais un petit peu plus avantageux. Et là aussi, c'était largement justifié, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, on paye le chômage. Voilà. Alors que, en fait, quand on dit que le régime des intermittents, on a des privilégiés, les intermittents, il faut comprendre qu'en réalité, c'est le chômeur qui est désavantagé. Régime général. Parce que le chômeur au régime général, quand il travaille, eh ben, je veux pas dire n'importe quoi, mais, grosso modo, le cumul travail-emploi, il va peut-être obtenir, 20% en plus, éventuellement, de son indemnité, acédique. Si elle est, c'est-à-dire que plus son indemnité acédique est élevée, et plus en retravaillant, il lui est compliqué de compenser, en fait, de cumuler, en fait, les deux. Et c'est pire que ça, c'est-à-dire que un travailleur à temps partiel, un chômeur, donc qui est un travailleur, donc en CDD, c'est 7 mois, et puis là, mon employeur me dit 70% du temps de travail, et je suis au chômage. Ah ben, c'est pas de chance, parce que pour moi, sur mes droits assez dits couverts, donc grosso modo 70% des droits bruts, on va affecter un coefficient négatif en quelque sorte pour toucher mes droits du fait que j'étais à temps partiel. C'est-à-dire qu'en fait je vais toucher moins parce que la seule justification étant que j'ai été à temps partiel. Hein, je m'explique, j'ai touché tant sur l'ensemble des mois de référence pris en question, donc voilà, par exemple 7 mois, on va dire 7 mois, mais aujourd'hui les droits sont ouverts à 4 mois, donc 4 mois ou 7 mois, voilà la somme que j'ai touchée, et donc sur cette somme que j'ai touchée, voilà mon indemnité. Et là, mais monsieur, vous avez travaillé à temps partiel, donc par exemple j'ai travaillé, 70% du temps pendant 10 mois, j'ai atteint le nombre d'heures qu'il faut, donc c'est
610 pour
610 pour le régime général. J'ai bien travaillé 610 heures, mais sur 10 mois. Et vous voyez, mais jeune homme, vous avez travaillé à temps partiel et donc je vous affecte un coefficient qui va baisser votre rémunération. Oui. Donc en fait, donc le système est vraiment très 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 désavantageux pour le chômeur. Et il est effectivement mieux conçu,
C'est un système pervers, oui, c'est clair. Ouais.
pour des gens dont la précarité est le lot quotidien. Et donc, je voulais juste donner une dernière statistique qu'on a récupérée donc à l'INSEE. Oui. Donc, en fait, c'est dans le portrait social de la France 2013. Un truc terrible, d'autant qu'il porte parfois, certains chiffres portent sur l'année 2009, ce qui signifie que les effets de la crise sont pris en compte sans être pris en compte. Mais enfin, là, en tout cas, les chiffres qu'il donne sur les intermittents sont datent de 2009. Eh bien, figurez-vous que la durée, en fait, de travail des intermittents s'est globalement réduit entre 1986 et 2009. Mais elle s'est réduite. Et le nombre de contrats qu'ils signent dans l'année, lui, a carrément quadruplé. Donc, juste hein, pour si les chiffres parlent pour quelqu'un, ben c'est très simple. Voilà. Donc, on avait cette personne. Le nombre moyen de contrats d'intermittents du spectacle a globalement triplé, de moins de 5 contrats en moyenne signés hein, dans l'année en 86. Les artistes et techniciens sont passés à environ 15 contrats. Parallèlement, la durée de chaque contrat, elle, n'a cessé de se réduire. Donc, la durée moyenne d'un contrat artistique est passée de 17 jours en 86 à moins de 3 jours en 2009.
Des contrats de 3 jours, bravo.
Voilà. Voilà. Et parallèlement, en fait, le salaire, lui, a plutôt stagné.
D'accord.
Le revenu. Et ce qui fait que, globalement, eh bien, le revenu, donc, d'activité des intermittents du spectacle a baissé, en fait, hein, mm-hmm. pour amener au nombre de jours. Et ce qui signifie, en fait, tout simplement que les employeurs font un tel turnover, puis ils ont beaucoup plus de monde, en fait. Il y a plus d'intermittents du spectacle qu'en 86. Et donc, ils font une telle utilisation et un tel turnover des artistes que, globalement, eh bien, les intermittents du spectacle gagnent beaucoup moins qu'à la fin des années 90.
Très bien. Je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. Bonjour.
Salut, c'est Marc.
Salut, Marc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dis-moi, Marc, tu suis bien toutes les luttes un petit peu de près. Que penses-tu justement de cette lutte des intermittents du spectacle après cette renégociation intermittente voilà, dis-moi un petit peu ce qu'on en a, parce qu'en fait, il y avait quand même des choses qui paraissaient au départ pas mal. Par exemple, les droits ajustables, le fait de pas trop perdre, de pouvoir éventuellement garder, si on travaille après avoir été aux ACEDIC, de garder effectivement ses droits pour la suite si jamais on se retrouve aux ACEDIC. Qu'est-ce que tu en penses, toi, particulièrement de ce genre de choses?
L'accord qu'ils avaient conclu était mauvais.
Oui.
Actuellement, il y a 40% seulement des chômeurs qui sont indemnisés. Ça veut dire que 60% sont exclus de l'assurance chômage. Certains ont droit aux minima sociaux. Ça fait pas grand-chose. Pas mal n'ont droit à rien. Ils doivent se débrouiller tout seuls. Et c'est le cas des jeunes. L'assurance chômage, c'est vraiment un truc qui tient pas la route. La convention qu'ils ont proposée, elle règle rien, puisque en gros c'est la même qu'avant. Et en plus, ils font 800 millions d'économies par an sur les droits. Alors une bonne partie sur les intermittents, mais aussi les intérimaires. Et puis finalement, tous les précaires indemnisés, hein, les vacataires, enfin quel que soit l'employeur, quoi, tous les précaires indemnisés en prennent un coup. Donc là, ce qui se passe, c'est vraiment bien. Les intermittents, alors ce qui est dommage, c'est que on parle de la lutte des intermittents, alors que ils sont évidemment pas seuls. Et puis il y a d'autres, ça concerne beaucoup de monde, quoi. Mais pour différentes raisons, dont le poids des médias, on parle plus des intermittents. Mais c'est fabuleux quand même là, parce que Valls en arrive. À dire des choses complètement compliquées, presque contradictoires. On voit pas comment ils vont s'en sortir. La pression se maintient. Bon, peut-être que pour les droits, je trouve qu'il y a un sujet qui devrait être lancé. C'est est-ce qu'il est pas temps que l'ensemble des chômeurs et précaires rejoignent les intermittents, parce que là il y a quelque chose qui se passe quand même. Donc c'est peut-être l'occasion.
Justement, la question, on va faire un peu les néophytes, même si on est un petit peu au courant de ce qui se passe autour de nous. Quand tu dis qu'effectivement 60% des intermittents n'ont pas le droit aux ACEDIC, c'est parce qu'ils n'ont pas fait leur 500.
60% des chômeurs.
60% des chômeurs, d'accord. Oui, pardon. Oui, tout à fait. Est-ce que parmi les intermittents, le pourcentage est à peu près égal à ces 60%, ou c'est où il y a quand même plus d'intermittents qui touchent quand même d'une façon générale?
Franchement, je suis pas forcément bon en statistiques.
D'accord.
Je connais pas tant que ça le point des intermittents.
Alors, la question, alors, elle est peut-être dit.
Ouais. Je suis très sensible à ce coup-là, façon chômeur général, parce que à partir du 1er juillet, les allocations vont être plus basses. Pour moi, parce que je suis indemnisé depuis maintenant 6 mois, mais pour les nouveaux, les allocations seront plus basses. Si je reprends un boulot, je vais moins gagner, enfin, j'aurai moins d'allocations en complément que après juillet que maintenant.
D'accord.
Il y a toute une série de trucs où on va y perdre des droits clairement. Et franchement, il n'y a pas de raison. Enfin, si ce n'est la politique d'austérité qui remplace le néolibéralisme et offre toujours pas de perspective, il n'y a pas de raison.
Alors, la question est un peu plus... Si tu me permets, si on peut aller un petit peu au fond du problème. La question, tu dis que les nouveaux entrants aux ascédiques vont perdre un peu plus par rapport aux anciens. Ça porte sur quoi? Sur le délai de carence? Sur l'indemnisation propre? Sur le nombre de mois travaillés? Sur quoi ça porte exactement?
Pour les nouveaux chômeurs,
oui.
Les allocations seront plus basses.
Oui.
D'un chouïa, on va dire. Mais enfin, quand même, hein, c'était 57... Pour ceux qui gagnaient environ 2000 euros brut par mois, jusque-là... C'était 57,4, ça va passer à 57%.
D'accord. Ah, quand même, c'est, même 0,4, ça peut être important des fois, sur une certaine somme de
ouais,
sur une masse.
Oui, parce que les fins de mois sont déjà pas faciles. Donc pourquoi faire un sacrifice de plus? C'est en l'honneur de qui? De quoi? Qui a décidé ça? Pour qui? Pourquoi? Enfin, voilà.
Non, et puis surtout qu'il y a de l'emploi, je veux dire, partout, quoi, que les choses soient claires. C'est du coup, évidemment.
Et l'autre truc, c'est évidemment c'est le différé d'indemnisation, comme tu disais, mm-hmm. tu rappelais, qui va pouvoir être maintenant de 180 mois. 180 jours, excusez-moi.
180 jours, 3 mois. Plus 7 jours. Hein,
on ne pourra pas être indemnisé. Alors, eux, ce qui pointe, c'est que ça va toucher les cadres sup. Bon. Il n'y en a pas tant que ça en France, alors voilà. Mais ça va toucher aussi différentes professions, dont des techniciens pointus qui arrivent à négocier au moment de leur licenciement de l'argent pour qu'ils ne se plaignent pas de ce qu'ils ont subi pendant ce temps-là. Et puis surtout, ce qu'a pointé le SAF, hein, c'est que ceux qui obtiennent de l'argent pour en réparation d'un préjudice des prud'hommes, mm-hmm. cette somme-là va être elle aussi prise en compte. Et ça, si le gouvernement veut corriger des erreurs, il a le choix, quoi. C'est inadmissible que des indemnités qui sont perçues à cause d'un préjudice durant un boulot soient prises en compte comme si c'était une prime qui fait que tu pourrais être indemnisé 6 mois plus tard. Voilà, donc par ces deux bouts-là, les futurs chômeurs y perdent. Et puis après, si jamais ils reprennent un boulot, ils vont y perdre. S'ils sont vieux, ils attendront plus longtemps encore. Enfin, voilà.
Alors moi j'ai vu juste par rapport aux attributions, donc moins de 50 ans, tu peux me corriger si je me trompe, moins de 50 ans, il faut 122 jours travaillés, soit 610 heures minimum, hein, sur les 28 mois derniers.
Ça c'est le régime général.
C'est le régime général ça, hein. Et pour effectivement le régime général, et pour les plus de 50 ans c'est la même période, sauf que c'est sur les 36 mois précédents, hein, donc voilà. Mais apparemment, il y a effectivement une perte de rémunération, et puis c'est complètement inique ce principe de si tu passes devant un tribunal.
On a l'impression que les ascédiques font tout pour gratter tout et n'importe quoi de partout. Et donc, je crois, hein, me souvenir de mémoire que finalement les sommes qui étaient données par les employeurs de gré à gré comme ça avant la rupture conventionnelle avaient déjà été plus ou moins pris en compte par l'UNEDIC. Dans le régime général, et puis finalement, bah, on s'attaque aux intermittents, donc on récupère l'argent où on peut, visiblement, sans être, enfin, et en laissant à la charge du gouvernement de compenser dans certains cas, donc en l'occurrence, je sais pas, les déclarations de Valls sont assez, là-dessus, sont édifiantes. C'est l'État qui devrait mettre 90 millions, c'est ça,
c'est ça,
les chiffres
oui.
qu'on donne sont exacts, pour compenser le délai de carence. Ça représente des sommes importantes quand même.
Je trouve que ça vaudrait le coup de discuter de ce qu'a dit Valls et de ce que ça signifie quand même. Parce que, comme tu le dis, là donc, l'État va payer 90 millions d'euros à l'UNEDIC parce que l'État va agréer une convention, bien que l'État considère qu'une disposition soit pas acceptable.
Oui, c'est ça.
Donc au lieu de pas agréer cette disposition et que les partenaires sociaux reprennent leur copie, corrigent, machin, l'État va payer pour eux. Alors, non, déjà en soi, je trouve que c'est...
C'est débile, faut le dire clairement.
On agit tous pareil, quoi. Mm-hmm. C'est hallucinant qu'ils fassent ce choix, quoi, juste pour ne pas mécontenter le MEDEF. Enfin,
dire
pas sauf le MEDEF, ils font ce que leur dit le MEDEF, quoi. C'est quand même ça. Et de l'autre côté, va falloir voir comment ça marche, ce machin, parce que donc ça va être le texte agréé qui sera mis en place par les services informatiques de l'UNEDIC. Et donc, les gens, ils vont subir le différé d'indemnisation, mais l'État va compenser juste derrière très très rapidement, sinon il y a un problème. Ça va être une usine à gaz, si c'est effectivement comme ça que ça serait, parce que enfin, après.
Et pour quelle durée surtout aussi, parce que il y a ça aussi, hein, compenser jusqu'à la fin de l'année peut-être.
Non, mais Valls a quand même dit quelque chose de très fort qui va dans le sens de ce que tu viens de dire, Marc. C'est quand même, il a quand même dit, alors je sais plus la phrase exacte, mais il a quand même dit que l'année qui allait arriver là, donc il serait dans le cadre du régime qui vient de signer là, donc, et qu'ensuite il rediscuterait pour mettre le régime à plat, pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut être modifié, alors qu'ils auraient pu faire ça tout de suite, hein, comme tu viens de le dire, plutôt que de payer 90 millions. Non, mais c'est le monde à l'envers, et c'est vrai qu'on est dans un système où effectivement c'est tout pour ceux qui ont déjà beaucoup et rien pour ceux qui n'ont rien, quoi. Donc ça, c'est. Mais justement, pour revenir un petit peu aux intermittents du spectacle, tu as pu remarquer comme moi depuis 15 ans, 20 ans qu'on lutte plus ou moins ensemble, enfin dans le même collectif, hein, plus ou moins, même si on s'est pas connu il y a 20 ans. Mais tu as pu remarquer qu'effectivement, on avait du mal, nous, à assez de mobiliser les chômeurs pour lutter contre ce qu'on nous prépare, et qu'effectivement, là, les intermittents, pour le coup, ont su se mobiliser et ont pu quand même montrer un petit peu leur nerf, enfin, je sais pas, ils ont pu taper du poing sur la table. Alors, pour quel résultat, je sais pas encore. Qu'est-ce que t'en penses du résultat, là, pour l'instant? Est-ce que tu penses que c'est un mouvement qui va perdurer, qui va s'amplifier, ou qui va reprendre plus tard pour...
De ce qui est annoncé et de ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu un communiqué de la CGT disant, en gros, on n'est pas des mendiants, on est des salariés, on veut des droits et pas des trucs qui sont concédés parce qu'on fait de la culture, machin, on veut des droits comme les autres, on veut des droits pour toutes et tous, enfin, voilà, un truc pas mal, quoi. Et en ce moment, je crois que c'est autour de la CIP, il y a une occupation qui se passe à Aubervilliers d'une des entreprises de Gataz,
oui,
où il y a des intérimaires en pagaille, et les gens y sont allés, voilà. Donc ça va continuer. Et moi, ce qui me frappe, c'est que je trouve que le il me semble que les déclarations de Valls, ça risque de pas tenir la route longtemps, quoi. Alors c'est sûr que son objectif, et là il y a tu parlais de, parce qu'il y a un truc qui est positif, c'est qu'ils ont parlé d'une table ronde réunissant toutes les parties concernées. Alors
oui. Est-ce
que nous on exige depuis longtemps, là il en est question, sauf qu'il en est question que pour les intermittents. Et c'est un truc de division quand même, parce que la question de la précarité, enfin sur les droits des précaires, ça serait les intermittents le prouvent, il y a besoin, il y a l'occasion de faire que l'ensemble des droits des chômeurs précaires soit posé sur la table, et qu'il n'y ait plus 60% d'exclus de l'assurance chômage, qu'il n'y ait plus des précaires qui se font bouffer leurs droits, qu'il n'y ait plus, enfin, essayer de remettre ça un peu carré, quoi. Et une vraie table ronde. Or là, ce que fait le gouvernement, c'est tenter la division. Faire comme si les intermittents c'était des bêtes à part, oui, ils parlent de réserve, c'est qu'on va créer une réserve spéciale pour eux, voilà, un truc comme ça, et puis les autres faudrait qu'ils se débrouillent. Alors que c'est pas ça quand même, hein. Les intérimaires vont en prendre plein les dents, je veux dire, chaque mois ils vont y perdre c'est plusieurs, il y a des estimations qui ont été faites pour quelqu'un qui bosse pour un boulot un peu au-dessus du SMIC, son complément à CEDIC, du SMIC horaire, son complément à CEDIC, ça peut faire des pertes de 300 euros par mois, quoi, vite fait, quoi.
Oui, ce qui pour un intérimaire est difficilement supportable, en fait, juste au regard de sa situation. Je veux dire, il n'y a pas que les intérimaires qui sont précaires, soyons clairs, mais eux, c'est vraiment l'ajustement, le volet d'ajustement de salariés ajustable, hein, c'est-à-dire en cas de baisse d'activité, c'est eux qui sautent. D'ailleurs, on l'a bien vu au début de la crise. Donc, finalement, le régime intérimaire était un bon système quelque part. On a l'impression, c'est-à-dire que c'était un des rares systèmes de précarité où on rémunérait à peu près la précarité. Or, même ça, on est en train de taper dessus, quoi, en pleine crise.
Et là, ils sont en train de le récupérer, mais en même temps, on va voir comment ça va se passer, parce que donc là, visiblement, la bagarre va continuer. Est-ce que les chômeurs et précaires vont se dire, allons-y, c'est le moment, nous aussi on peut.
Mais ce serait bien qu'ils soient effectivement autour de la table aussi, les mouvements de chômeurs, etc., pour participer au débat, ne serait-ce que ça, tu vois, même s'ils sont pas, ils peuvent pas voter, mais au moins qu'ils soient là pour mettre des idées, quoi.
Ce qui est vrai et ce qui est fou, c'est que finalement Valls accepte une revendication que les mouvements des chômeurs ont porté depuis des années, mais il l'accepte juste pour les intermittents du spectacle.
C'est exact.
Sous la pression, quoi.
Et pour en faire un truc de division.
à l'arrivée, voilà, ouais, pour puisque et donc évidemment, ben, les interpréteurs du spectacle ont ce privilège-là, c'est d'avoir effectivement durant l'été la possibilité de peser sur les festivals, sont visibles à la télé malgré tout, hein, puisque la télé tourne beaucoup sur eux, quoi, qui sont un peu voilà, un peu utilisés, exploités.
Je crois que si font grève pendant les festivals, là, ça quand même, c'est, je crois, c'est autour de 500 millions de pertes pour l'État.
Ouais, hein, mais ça, je veux dire, c'est des chiffres qui sortent, dont on ne sait pas d'où ils sortent.
On ne sait pas d'où ils sortent. Oui, non, ce que j'ai entendu. Effectivement,
c'est plus peut-être pour la visibilité, mais effectivement, donc la force des intermittents, c'est d'avoir un moyen de pression, donc qui soit clair et visible, quoi.
Et là, ça va jouer bientôt, parce que une fois que la grève est partie, bon ben voilà. Mais avant la grève, ils vont chercher à négocier dans les couloirs. Enfin, ils cherchent le moyen de l'éviter. Valls, il a tenté une carte, ça marche pas. Il y a encore une dizaine de jours, je crois, c'est le cas dessus. Que sur les dates, il y a le 26, il y a un truc de la CGT qui va être utilisé par les mobilisations, ça c'est certain. Et le 4 juillet, il y a une grosse journée de mobilisation à l'appel des mouvements d'intermittents, pour aller vite. 4 juillet, donc 26 et 4 juillet. Oui. 26, c'est bientôt, hein, puisque c'est la semaine prochaine. Et lundi, il y a une AG à la Villette, à partir de 19h. Ça vaut le coup de passer, hein, pour ceux qui peuvent. C'est l'occasion d'avoir des infos, de voir un peu que...
Okay. Allez, je rappelle quand même que le 4 juillet, c'est le début du Festival d'Avignon. Hein, donc c'est quand même une date importante, hein, effectivement, de pression sur le gouvernement, je veux dire.
C'est ça, et c'est le moment de faire monter, parce que il n'y a pas de raison.
Bien sûr. Alors, juste une question un petit peu plus en revenant sur les intermittents du spectacle. Donc on a vu qu'effectivement ils étaient en mouvement, les intermittents, et c'est légitime, et on est tout à fait avec eux, et ça va de soi, tout le monde le sait. Mais en quoi cette nouvelle signature sur ce nouveau protocole change par rapport au protocole ancien, c'est-à-dire l'ancien protocole? Est-ce qu'il y a des grandes nouveautés qui font peur ou qui sont mieux, enfin qui améliorent ou qui n'améliorent pas l'ancien système? Parce que justement, j'en avais parlé avec toi au téléphone, hors micro, qu'effectivement, les droits ajustables qui paraissaient, moi, en première lecture...
Le droit rechargeable, pardon, me
paraissait comme une avancée. Mais est-ce que c'est pas de la poudre aux yeux, cette histoire de droits rechargeables?
Alors, sur les droits rechargeables, c'est sûr qu'il y a un débat. Hein.
Oui.
Je vais présenter les choses avec ma subjectivité... ma mauvaise... Voilà, mais je pense qu'il y a deux manières de voir les choses. Il y a une manière... le marché du travail. Alors là, parce que c'est vrai que du point de vue du patronat, il y a des gens, quand ils faisaient leur compte, parce que certains chômeurs précaires font très précisément leur compte, hein, pas tout le monde, mais il y en a qui font... Quand ils faisaient leur compte, ils voyaient qu'ils n'avaient pas intérêt à reprendre du boulot, donc ils n'en reprenaient pas. Et ça, sur certaines professions très qualifiées, ça embêtait les patrons. Donc c'est sûr que ça les arrange. Mais de l'autre côté, quand nous, on reprenait un boulot et que, parce que les droits d'un côté étaient plus petits que les droits de l'autre, et qu'au total, ça en venait au fait qu'on avait cotisé et qu'on avait droit à rien, c'était quand même une injustice qui reposait sur rien et qui est en partie levée, quoi. Donc il y a ce bout de débat qui ferait... Voilà, j'ai l'impression que côté AC, on est plutôt sur l'idée que c'est quand même une injustice de moins, même si ils font ça d'une façon scandaleuse, parce qu'encore une fois, c'est le patronat qui impose sa volonté. C'est dans le Code du travail depuis un an. Ils ont décidé de repousser ça au 1er octobre. Mm-hmm. Si la convention est agréée, ça serait encore une fois repousser les droits rechargeables au 1er octobre. Et en plus, ils limitent ça aux contrats de plus de 150 heures. Or, la plupart des contrats, c'est moins de 150 heures. Donc, ils trouvent le moyen de vider les droits rechargeables d'une partie de leur contenu. Merci. Voilà. Donc, moi, je trouve que la bonne approche, c'est plutôt de se dire, ce machin-là, c'est la fin d'une injustice. C'est pas grâce à eux. Ça fait des années que ça nous énerve, qu'on n'en veut plus. Et par ailleurs, ils font ça d'une manière qui nous convient pas, et on veut la lever de cette restriction sur 150 heures, parce que ça correspond à rien.
Indirectement, hein, tu es en train de dire que les droits rechargeables ne concernent que ceux qui sont à temps plein, en fait, qui reprennent un emploi à temps plein, et qu'une fois de plus, c'est les gens qui travaillent à temps partiel qui sont
lésés.
Ouais, ils font le boulot à moitié, quoi.
Oui, sachant qu'ils le sont déjà en termes d'indemnisation.
Mais là, c'est vrai qu'il faudrait clarifier le débat, parce que, par exemple, la CIP est très remontée contre les droits rechargeables, recours radiation aussi. Il y a des mouvements comme ça qui sont très crispés, y voyant d'abord un élément de précarisation en plus, alors que il me semble que c'est plutôt le point de vue des produits concernés qui devrait être pris en compte. Et pour qui c'est plutôt un gain, quoi. Et vous, vous en pensez quoi?
Nous, on en pense que ça fait quand même ça fait des années, même, je dirais, que le sujet est sur la table, qu'au moment de la négociation, ça fait un peu, genre, une cacahuète qui aide à faire passer le truc le plus dur. Parce que, je rappelle quand même qu'au début de la négociation, il était, question de supprimer purement et simplement le régime des intermittents du spectacle. Mmh. Alors, ça n'a aucun rapport l'un entre l'autre, mais dans la négociation globale, bah, voilà. Et puis, qu'effectivement, bah, c'est reporté, au mois au calendrier grec, mais en tout cas, effectivement, au mois d'octobre. Donc, donc on attend, c'est pareil, on attend toujours la mise en application et le comment. Mais évidemment que sur le principe, personne ne peut être en soi opposé aux droits rechargeables si ça peut soulager effectivement les chômeurs et favoriser aussi cette capacité aussi à travailler quand même un peu, je veux dire, ou accumuler un travail. Après, effectivement, si ça ne concerne que le temps plein, c'est peut-être mieux que rien dans cette période de chômage dur et massif, mais c'est évidemment c'est peut-être pas non plus tout à fait suffisant, mais en termes je pense en fait que le patronat a tendance à lâcher par petits bouts des petits trucs, est-ce qu'ensuite on peut aller au-delà, on n'a pas de réponse, quoi.
Non, on n'a pas de réponse. Absolument.
Mais c'est vrai qu'on peut pas être opposé, enfin, par principe au principe du droit rechargeable. Ça paraît quand même, je veux dire, par ces temps de chômage important, ça paraît un minimum, j'ai pas dire vital, mais pour les chômeurs, ça paraît indispensable, quoi. Ouais.
Ça apparaît effectivement comme une avancée. Quoi.
Non, mais quand on regarde aujourd'hui les contrats courts qui sont proposés, c'est-à-dire que les contrats courts ont explosé et ils sont explosés. Je veux dire, c'est des contrats de moins d'un mois explosés. Donc, ça fait un peu flipper, quoi, pour les chômeurs qui ont quand même plutôt intérêt à pouvoir recotiser pour pouvoir retravailler. Voilà. Mais globalement, là, moi, je suis d'accord sur un point, c'est que globalement, la précarité aujourd'hui, la précarité via le temps partiel, c'est vraiment, tout le monde, c'est le truc qui est le moins bien pris en compte par l'État, en dehors vaguement du RSA, quoi. Bon, c'est vrai. Ouais. Voilà, et vaguement, quoi.
Alors, et puis tout ça renvoie un peu à la question sur laquelle on a presque démarré tout à l'heure, c'est la question de la mobilisation des premiers concernés, quoi.
Bien sûr. Bien sûr.
Qui fait qu'à un moment donné, les gens se disent c'est l'occasion, on y va.
Oui, alors pour ça, effectivement, il faudrait une solidarité des luttes. Mais c'est vrai que les intermittents sont plus mobilisés, c'est vrai.
Ah, c'est un bon moteur.
C'est un bon moteur, faut se rallier, quoi. Donc voilà, donc on peut lancer un appel.
Voilà, on lance un appel, donc.
Pour les chômeurs.
Voilà, tous les chômeurs, les intermittents, tous ceux qui sont dans la précarité, effectivement, il faut qu'ils s'associent à ce mouvement qui est lancé par les intermittents du spectacle. Évidemment, et donc être dans la rue, montrer ses dents en fait un petit peu, hein, montrer la grogne. Hein.
Et pour ceux qui passent, passer à l'AG lundi à la Villette à partir de 19h.
Ok.
Côté porte de Pantin.
Ok, écoute, on note et puis on rappellera ça dans le cadre de l'émission avant la fin. Il n'y a pas de souci.
Ok.
Je te remercie Marc de ton intervention et puis bonne lutte. Hein.
À vous aussi.
Allez, salut.
Salut.
On va s'écouter une petite chanson avant de reprendre cette émission. Merci. Et oui, c'était une chanson d'un vieil intermittent pour les jeunes intermittents en grève. Restez en grève, manifestez, soyez militants. Voilà, ça c'est le truc du jour, si on peut dire comme ça. Donc cette émission reprend, c'est 106.3 FM, c'est fréquence, Paris pluriel, mission mode d'emploi, c'est mission des chômeurs et précaires, AC, agence en contre le chômage. Nous sommes vendredi, c'est le match de foot, mais tout le monde s'en fout, c'est la France qui va gagner peut-être ou pas. Les matchs de mecs qui touchent 300 000 euros pour toucher au ballon rond, on s'en fout.
En caleçon en plus.
En caleçon en plus, c'est ridicule. Alors donc, nous restons sur... Donc écoutez l'émission, écoutez Fréquence Paris-Pluriel, il n'y a pas de souci. Donc on va reprendre cette émission avec effectivement cette grande, peut-être une sorte de mouvement national autour de Pôle emploi. Cette grève hein, qui est en cours.
C'était une grève effectivement qui a eu lieu hier, un jour de grève, et donc qui va recommencer le 25. Voilà. Donc il y aura un rassemblement cette fois devant la direction générale de Pôle Emploi. Et oui, pourquoi Pôle Emploi fait grève? Puisqu'ils ont du boulot.
Bah oui, eux ils ont du boulot.
Et ils font grève. Mmh. Alors, franchement, et ben voilà, ils font grève parce que il arrive un truc terrible à Pôle Emploi. C'est que Pôle emploi a fait sa fusion en pleine crise et que bien les effectifs des chômeurs ont, je ne vais pas dire quadruplé,
explosé,
mais effectivement ont explosé. En tout cas, et apparemment, on semble constater. Hein, alors, on a beau dire que Pôle emploi est d'une utilité relative pour trouver un emploi, en réalité, le nombre d'inscriptions n'a jamais été aussi élevé à Pôle emploi. Même y compris pour des gens ne sont pas encore considérés comme des chômeurs. Donc il semblerait par exemple que des étudiants s'inscrivent très tôt à Pôle emploi pour bénéficier de tous les services. Donc Pôle emploi est un service public qui a une utilité, ne serait-ce que effectivement grâce au bon pour l'indemnisation bien entendu, même si c'est relatif, hein, 40% des chômeurs sont indemnisés aujourd'hui. Mais une indemnité au niveau de ses services, notamment pour ceux qui n'ont pas internet pour faire ses CV, et puis ça donne un peu aussi la tendance des secteurs d'activité qui embauchent. Donc voilà, et il y a un besoin d'accompagnement. Or, depuis la fusion, grosso modo, le nombre de ce qu'on appelle le portefeuille d'allocataires, ça veut dire qu'en fait, pour les conseillers sont tenus de suivre les demandeurs d'emploi, notamment depuis la mise en place du contrôle mensuel, donc en principe une fois par mois. Donc on leur affecte de fait un quota de personnes à suivre.
Donc c'est 150 personnes à suivre.
Alors voilà, on avait commencé sur cette base de 70.
70,
donc,
pardon.
Au départ.
Pour moi,
au départ. C'était l'objectif affiché au moment de la fusion par c'était Madame Lagarde elle-même qui l'avait dit, donc le ministre de l'économie à l'époque, et puis on s'est aperçu que ça marchait pas vraiment, donc on est passé à 170.
Ah voilà, toi j'étais pas loin.
Ah mais en fait tu es très loin, ouais. Parce qu'aujourd'hui il y a on m'a expliqué ça récemment, hein, il y a trois catégories possibles, donc les chômeurs sont classés, mais grosso modo un conseiller peut avoir jusqu'à 400 chômeurs à suivre tout au long de l'année, voilà. Donc c'est pas la majorité, mais il y a 300 350. Ça c'est le petit A. Petit B.
Oui.
Donc c'est la crise. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a une politique d'austérité qui est sévère et qui affecte aussi Pôle emploi. Après la première vague de recrutement lancée au début de la crise, les recrutements on a fermé tout simplement le robinet à recrutement. Alors on m'a expliqué que la fusion s'était faite aussi, qu'on avait encouragé le passage au contrat de droit privé. En augmentant les salaires pour les 10 droits privés, comme ça on pouvait faire la fusion de façon plus facile et puis aussi se débarrasser en quelque sorte des fonctionnaires, hein. Voilà, et donc permettre ainsi la fusion entre la CEDIC qui n'avait pas le même contrat et puis la NPE qui était des fonctionnaires en majorité, et donc effectivement maintenant il y a une proportion très 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 importante de contrats de droits privés. Et ça, c'est un effet direct en fait sur le rapport qu'il y a entre les salariés et la direction. C'est que d'une certaine façon, les rapports ont été individualisés et les négociations en termes de carrière et d'augmentation de salaire sont aussi alignées sur le privé. Ce qui signifie que c'est terminé. Si vous voulez, j'exagère un peu, mais les augmentations sur les échelons, sur l'ancienneté, sur l'indice. Donc aujourd'hui, grosso modo, il faut attendre 3 ans pour être augmenté à Pôle emploi.
D'un demi-point, quoi. Voilà.
Voilà, donc ça. D'accord. Et là, il y a un petit souci, c'est que, vu le manque général d'effectifs, la direction a tout simplement proposé des fiches, on va dire, de postes qui soient polyvalentes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de définition claire de postes et de métiers au sein de Pôle emploi. Ce qui signifie, par conséquent, qu'un grand nombre de gens de Pôle emploi peuvent tout simplement tous se retrouver conseillés. Tout simplement. Parce que, du fait, c'est là où il y a un manque manifeste de moyens.
D'accord. Et est-ce que ça veut dire que la spécificité des carrières de Pôle emploi sont tous devenus à la base, tout ça s'est mélangé maintenant.
C'est la tendance de la direction qui est en train de signer cet accord-là, en fait, hein.
D'accord. Sera signé. Donc il n'y a plus juillet, de principe de compétence, 3 juillet.
Alors voilà, ils font ce que nous on dit depuis des années, c'est-à-dire que Pôle emploi est devenu un traitement administratif, je dis même pas social, administratif du chômage. C'est-à-dire, grosso modo, qui marche mal en plus, hein. Ah oui. Mais grosso modo, on reçoit le chômeur tous les mois pour voir, je caricature, mais c'est un peu ça, ouais. Où il en est, mais aussi s'il justifie de ses recherches d'emploi, et donc s'il justifie de toucher c'est un bon chômeur, donc s'il cherche du travail, et donc s'il peut continuer à toucher ses indemnités chômage. C'est la logique, elle est un peu là, dans le suivi. Tous les mois, ça veut dire, je gère par temps de fort chômage. Donc de fait, Pôle emploi devient un espèce de machin à contrôle, et en quelque sorte, occuper les chômeurs, à traiter les chômeurs sans en avoir les moyens de plus en plus. Et donc la partie, prospective, par exemple auprès des entreprises, tout ça, c'est peut-être pas une priorité en fait. Ce n'est plus une priorité de Pôle emploi, semble-t-il. En tout cas, ça se voit sur le nombre d'offres affichées par rapport au nombre de chômeurs. Hein, ça fait un rapport d'un pour 10. Donc il y a 10 fois plus de chômeurs que d'offres d'emploi proposées sur le site de Pôle emploi. Quand je dis 10, c'est encore, je suis généreux, hein, c'est plus.
Non, mais moi j'en reviens quand même à dire, quand même, si travailler est un droit, toucher les ACDIC est un
est un devoir. Non,
toucher ces ACDIC est un dû, puisqu'en fait sur la fiche de salaire, quand tu travailles, il y a une partie du salaire qui va aux ACDIC pour justement, quand tu seras sans travail, tu pourras toucher effectivement la différence.
Certes, mais depuis 2000, la convention de 2008, maintenant c'est un jour travaillé, un jour chômé, à partir de 4 mois. Donc on a abaissé. Mais ce qui n'empêche pas ça n'empêche pas 60%. Si on exclut les gens à la SS, hein, c'est-à-dire juste les gens qui sont indemnisés au titre de l'allocation de retour pour l'emploi, on est légèrement un peu plus de 40%
des
chômeurs indemnisés. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il y a 60% de gens qui sont sortis de l'indemnisation d'une manière ou d'une autre et qui pointent toujours au chômage. Donc voilà.
Ça veut dire qu'ils ont été radiés pour des raisons multiples et variées.
Ils sont radiés ou ils sont en fin de droit aussi.
En fin de droit,
c'est possible. Ou ils s'inscrivent, c'est des nouveaux arrivants, ils s'inscrivent et ils n'ont pas droit à l'indemnité, mais ils s'inscrivent quand même puisqu'ils en ont besoin, quoi. D'accord. Tout simplement. Donc là, la grève, elle est bon. Alors voilà, donc les conseillers de Pôle emploi ne peuvent que constater les dégâts et constater qu'en plus, on leur promet pas d'embauche supplémentaire, qu'ils n'ont pas les moyens de traiter tout cet afflux de gens. Et que, une fois qu'on a négocié leur contrat privé avec leurs augmentations de salaire, on va encore une fois réorganiser le service, on risque de mettre un peu tout le monde au même niveau, et il est fort probable qu'en remettant tout au même niveau, on revienne en fait sur la possibilité d'augmenter les salaires tous les 3 ans. Grosso modo, ça risque de remettre ça à zéro, il faudra attendre 3 ans. Et donc ça c'est sur un plan national, donc il y aura ce mouvement de grève là, hein.
donc c'est le 25, le tract, tu m'as dit,
ça c'est le 25. Alors le tract dit que il n'y a pas de positionnement aujourd'hui sur les organisations syndicales, hein, qu'il n'y a pas de positionnement sur une grille de métiers socioprofessionnels qui permettent à chacun de trouver la reconnaissance de ses qualifications ou de ses expériences et de ses expertises. Pas de grille de classification des emplois claire qui permet à chaque agent des possibilités de progression et de mobilité professionnelle. Pas de déroulement de carrière garanti. Maintenant vous êtes à des contrats privés, donc. Le budget, pas de budget, donc budget qui n'est pas compatible avec les enjeux. Et pas de... Et puis, effectivement, actuellement, il n'y a pas de véritable possibilité de recours suite au repositionnement en cas de désaccord, pour le moment. Hein. Des critères objectifs et opposables, bref. Voilà, et donc ça, c'est au niveau national et au niveau local. Donc, il y a l'exemple actuellement de Pôle emploi Lomière, donc qui est dans le 9e arrondissement, donc qui est pas loin de cette radio, et qui lui est en grève depuis 3 jours. Qu'est-ce que ça signifie, hein, les baisses de budget? C'est ça, c'est que sur les 24... aujourd'hui, en fait, il manque presque un tiers des effectifs par rapport à ce qui était prévu au départ de la fusion, ou au départ de la création de l'agence Lomière. Donc, il manque 8 postes sur... il y a 24 postes, il en manque 8. Hein. Et il n'est pas question, aujourd'hui, d'en avoir un... peut-être un à la fin de l'année, en résumé. Donc après de multiples demandes auprès de la direction régionale, les salariés se sont vus promettre éventuellement un poste en plus qui serait peut-être un détachement d'une autre Pôle emploi. Donc c'est pas d'embauche supplémentaire, niette, sachant qu'effectivement on a des conseillers qui se retrouvent parfois avec 400 un portefeuille de 400 allocataires à traiter. Donc, ça fait quand même 6 mois qu'ils râlent. Ils sont mis en grève une première fois, une grève une deuxième fois, une grève une troisième fois. Finalement, ils ont occupé l'agence Pôle emploi sur laquelle ils travaillaient. Évidemment. Et donc, la réponse de la direction régionale a été, de les menacer de procédures judiciaires pour obstacle au bon déroulement du fonctionnement de Pôle emploi. Donc, ils ont fait appel au directeur général, qui leur a répondu que, ma foi, il n'était pas concerné, puisque tout ça, c'était la direction régionale qui gérait l'affaire. Et pour le moment, la direction fait la sourde oreille et ne veut rien entendre d'ici la fin de l'année, où peut-être ils auront éventuellement un poste supplémentaire, mais c'est pas sûr.
D'accord.
Voilà. Donc, ils vont continuer leur mouvement. Par solidarité, il faut les soutenir. Donc, j'espère que les chômeurs qui pointent à Pôle emploi les soutiendront. C'est pas sûr qu'ils fassent pas preuve de compréhension. Et le 25, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y aura de nouveau une manifestation qui sera nationale. Le chômage a un coût, et un coût social qu'il
très
faut
important.
Pouvoir assumer, messieurs les dirigeants.
Je te remercie, Ludo. Une petite chanson avant, et on se reprend la parole par la suite. Merci.
Attention, c'est la danse du coup de boule.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à droite.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à gauche. Allez les bleus, allez.
Zidane, il a frappé. Zidane, il a tapé.
Coup de boule.
Zidane, il a frappé.
Bon, allez, on va donner un coup de boule au MEDEF. C'était une belle chanson, en tout cas. D'actualité. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris-Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires, bien sûr. Vous êtes toujours avec nous, j'espère. Et pas devant la télé en train de regarder ces milliardaires jouer au ballon. Donc, on reprend cette émission 106.3 FM pour le Fréquence Paris-Pluriel. Voilà. Donc, je viens de voir un document là pendant qu'on écoutait cette musique qui vraiment me laisse quoi pour le coup.
La musique ou le document?
Non, le document. Je vous lis quelques passages, mais essayez de les commenter un petit peu en quelques instants. Selon la nouvelle convention UNEDIC, les chômeurs ayant gagné un procès pour licenciement abusif, attention, faut bien vous attacher à vos chaises. Devront rendre jusqu'à 16 200 euros de dommages et intérêts. Bravo les gars. Donc comment ça marche cette histoire alors? C'est un tour de passe-passe qui doit réjouir le MEDEF, alors que la nouvelle convention d'assurance chômage signée le 14 mai dernier, donc 2014, par le patronat et 3 syndicats, on va les nommer parce qu'on est là pour faire de la délation un petit peu, CFDT, CFTC et FO, doit être agréé dans les jours qui viennent par le gouvernement. On le savait puisqu'on a parlé tout à l'heure de Valls, hein. Le syndicat des avocats de France, SAF, vient de soulever un loup qui pourrait faire chuter dangereusement en matière de licenciement les recours devant les prud'hommes. C'est-à-dire que maintenant, on ne pourra plus aller aux prud'hommes parce qu'on risque de, éventuellement 6 mois plus tard, rembourser Pôle emploi pour des versements d'indemnisation.
qui sont liés à un préjudice.
Qui sont liés à un préjudice, hein, donc un licenciement abusif ou autre, voilà. Alors, d'ores et déjà, les règles de l'assurance chômage prévoient un différé d'indemnisation, ce qu'on savait déjà, hein, de ce qu'on appelle la carence, hein, pour les licenciés touchant un bonus extra-légal. Autrement dit, un chômeur ne commence à toucher ses droits qu'après une période de carence, dont la durée est liée au montant de la prime. Alors évidemment, si on a une prime, par exemple, un gars s'arrête de travailler le 30 juin et qu'il a touché, il travaille ici 4 mois, il va toucher 4 mois les indemnisations de chômage correspondant, je crois, à 57% du salaire. Si mes souvenirs sont bons, mais je suis pas sûr.
C'est ça.
C'est ça, à peu près.
Au lieu de 57,4.
Comme au lieu de 57,4. Exactement. C'est une nouvelle convention.
Mais ceci dit, le délai de carence, c'est le même problème, enfin, des chômeurs que pour les intermittents.
Tout à fait, oui. Donc, alors, concrètement, les indemnités de rupture obtenues au-delà du minimum légal, c'est-à-dire, sont converties en jours d'indemnisation par Pôle emploi et déterminent ainsi la durée de cette période de différée, dans les limites, cependant, de 75 jours. Ce qui va changer, c'est que c'est plus 75 jours maintenant. On va voir pourquoi. Alors, en résumé, la somme touchée se traduit par un différé inférieur à 2,5 mois. Le salarié épuisera en théorie l'équivalent de toute sa prime en jours d'indemnisation avant de commencer à toucher ses allocations. Ce qui est vachement intéressant. Si cette durée est supérieure à 2,5 mois, c'est un peu compliqué pour le coup, le salarié conservera alors ce qu'il reste de son capital puisque l'indemnisation commencera, quoi qu'il en soit, au bout de cette période de 75 jours. Et je suis encore clair pour l'instant ?
À peu près, oui.
À peu près ? Merci. Alors, or, ce différé ne joue pas qu'en amont par rapport à la prime extra-légale arrachée par le salarié, mais aussi plusieurs années après, en cas de victoire de l'employé devant le tribunal des prud'hommes pour licenciement abusif. Ce qui veut dire que Pôle emploi peut réclamer aujourd'hui, et de façon rétroactive, toute une partie des sommes obtenues par le salarié devant les prud'hommes, dans la limite d'un montant correspondant à 2,5 mois d'indemnisation. Ça veut dire qu'en gros...
La victoire au prud'homme ne sert à rien. En fait.
Exactement.
C'est ça que ça veut dire. En dehors d'aller au prud'homme pour pouvoir être indemnisé par l'UNEDIC.
Oui. Voilà. Ça veut dire qu'un mec, un salarié, deux minutes, il reste deux minutes. Ok. Ça veut dire qu'un mec, ça veut dire qu'un gars qui va toucher à peu près, qui est licencié économique, licencié abusif, qui va au prud'homme, qui gagne, il touche 6 mois d'ACEDIC, 6 mois de rémunération pour les ACEDIC. Pôle emploi peut réclamer 6 mois plus tard l'équivalent de toutes les sommes versées. Soit, alors tenez-vous bien, 16 200 euros.
En l'occurrence, dans cet exemple.
Dans cet exemple-là, bien sûr. Ouais. Ce qui est absolument insupportable. Enfin, pour le coup, je sais pas.
Voilà.
Merci du doigt.
Je voulais juste faire un coucou pour les précaires de l'éducation nationale qui ont occupé la direction générale du travail. Voilà. Donc, il s'agit des gens qui sont de précaires de chez précaires en CUI, CAE, et qui s'occupent des handicapés, dans le cadre des écoles. Donc, et ces gens-là n'ont toujours pas de CDIsation pour certains, alors que ça fait 3 ans qu'ils travaillent. Et on n'est même pas sûr que leur contrat sera renouvelé. Donc, c'est bien.
Alors, sachez quand même, pour finir cette émission, parce qu'on est bientôt à la fin, là, que, bien sûr, mode d'emploi et fréquence papier dans son ensemble soutient toutes les luttes, dont celle des précaires.
Et que l'AG, qui aura lieu pour les chômeurs et les intermittents, a lieu donc lundi à 19h, donc à la Villette.
À la Villette.
Côté Pantin.
Côté Port de Pantin. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté, tous et toutes d'avoir écouté cette émission. Cette émission se termine. Merci à Ludo, merci à Claude pour la technique, à Gilles, moi-même, pour cette émission. Je dis un gros bisou aux filles et puis une poignée de moins garçons. Ciao.
Bonne soirée.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.